C'est ludique, 9h30, 10h.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu où on va partir sous l'océan. Ça s'appelle Écosystème Océan. En fin d'émission, on retrouvera Ludo pour faire un point sur toutes les news de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le coup de cœur de Jonathan. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors, je pense que ton coup de cœur est un jeu coopératif.
Bah oui, effectivement. Vu que tu me laisses parler de n'importe quoi, je vais parler d'un jeu coopératif. Et je me suis dit que j'allais choisir la facilité, que j'allais vous parler du jeu auquel je joue le plus en ce moment. Alors, c'est pas un jeu forcément très récent, après pas forcément très vieux non plus, c'est un jeu de 2020. Il s'agit de The Loop.
D'accord.
De Maxime Rambourg et Théo Rivière. Alors Théo Rivière, qu'on connaît bien dans cette émission, et puis même qui est un auteur assez célèbre, et puis Maxime Rambourg aussi, qui a fait pas mal de choses chouettes, et il s'était fait pas mal remarquer il y a pas mal d'années de cela avec The Big Book of Madness, un jeu deck building coopératif déjà qui était franchement bon à l'époque. Et là, bah, The Loop, l'année où c'est sorti, donc, avec tous mes collègues, on a été subjugués, on a trouvé que c'était un excellentissime jeu. Donc on est sur encore une fois, un deck building coopératif, mais là avec vraiment un aspect beaucoup plus jeu de plateau, avec son personnage qu'on va déplacer, essayer de résoudre des choses à droite à gauche sur le plateau. Alors déjà, visuellement, le jeu est assez marquant, hein. On va avoir beaucoup de couleurs, une espèce de tour à cube un peu bizarre qu'on va pouvoir tourner sur le plateau, et un thème totalement déjanté, hein. L'idée c'est que c'est très cartoonesque, hein. Il y a le docteur fou, une espèce de savant complètement cramé du cerveau qui a envoyé des clones à lui partout dans le temps et l'espace, et ça crée des distorsions temporelles. Nous on va devoir régler ça, on fait partie d'une agence de voyageurs temporels qui vont devoir renvoyer les clones à leur époque pour qu'ils soient désintégrés et sauver l'espace-temps. Donc beaucoup d'humour dans ce jeu, déjà rien qu'à la lecture de règles c'est très drôle. On a une règle qui est très bien écrite, on comprend exactement ce qu'on doit faire, mais en plus qui est très plaisante à lire grâce à son humour. Donc on va avoir un humour, on va dire, un peu geek sur le voyage dans le temps. Limite une petite satire aussi du monde du travail, j'ai trouvé. On fait vraiment partie d'une agence temporelle, donc on est des salariés, on a des missions liées à notre travail qui sont assez rigolotes. Donc moi, d'un point de vue édition, je trouve ça génial. Après, mécaniquement, l'idée, c'est que c'est un jeu de plateau coopératif assez classique. On a son personnage, on va se déplacer, attaquer des méchants. Il y a des missions à accomplir. Voilà, donc cette partie-là est très classique. Là où c'est totalement barré et original, c'est que vous ne choisissez pas du tout les actions que vous faites à votre tour. Vous avez un paquet de cartes qui est propre à votre personnage. Vous allez piocher 3 cartes à votre tour, et ces 3 cartes vous indiquent les actions que vous allez faire. Donc c'est totalement scripté.
Ouais.
Il y a une carte qui me dit déplace-toi, repousse un clone. Une carte qui me dit faire autre chose. Et donc ça donne l'impression de pas avoir de choix. Mais ce qui est totalement dingue, c'est que l'ordre dans lequel on va jouer ces cartes donne plein de possibilités en fonction de ce que, si je joue ma deuxième carte en premier ou la première, etc., ça va pas du tout donner la même chose à mon tour. Et en plus, comme on est des voyageurs temporels, on va pouvoir, si on est sur une case avec un cube d'énergie, le dépenser pour réactiver des cartes qu'on a déjà jouées, faire ce qu'on appelle un loop, d'où le nom du jeu.
Mais oui.
Et le truc totalement dingue, c'est que déjà, j'avais 3 cartes à jouer, 3 actions possibles, mais je peux les réutiliser. Donc là, l'ordre dans lequel je les joue, est-ce que je le refais ou pas? Et en plus, on peut le refaire de manière indéfinie. C'est-à-dire, je peux faire un deuxième loop en dépensant 2 cubes, un troisième loop en dépensant 3 cubes, 4 cubes, 5 cubes, etc. Il n'y a pas de limite. Donc là, ça devient totalement dingue. On a une sensation de combo à son tour, des fois pas faire grand chose, et des fois faire 40 actions à son tour, qui est totalement malade mental. Donc pour moi, c'est un jeu très grisant dans ses possibilités.
Ouais.
En plus de ça, ils ne sont pas arrêtés là, parce que le jeu a un contenu assez énorme. C'est-à-dire, on a pas mal de personnages disponibles dans la boîte de base qui ont tous un paquet de cartes différents et une manière de se jouer totalement différente. Et on a, il me semble, dans la boîte de base, 4 modes de jeu aussi, qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus intéressants, avec certains qui proposent encore plus d'effets combinatoires.
Et il y a aussi une extension ou deux, même, je ne sais plus s'il y en a une ou deux.
Il y a deux extensions.
Hein.
Alors, la première, pareil, avec un thème totalement barré, c'est la revanche de Fuzzilla, où là, le docteur fou, hein, le savant totalement dingue, s'est transformé en espèce de kaiju géant. Donc, ça met encore plus de bazar sur le plateau. Puis, on retrouve bien évidemment ce qu'on a envie dans ce genre de jeu, de nouveaux personnages incarnés. Et une deuxième petite extension, j'ai oublié le nom, qui propose 2 nouveaux personnages assez chouettes à jouer, le chat Charouman, et le chien Arsène Lupus. Donc pareil, qui intègre de nouvelles mécaniques très original. C'est vraiment pas redondant de rejouer des parties de The Loop, de changer l'émission, de changer ses personnages. Ça demande de se réapproprier le jeu à chaque fois.
Brigade à poil, ça s'appelle.
Brigade à poil, merci Mathieu.
L'extension. Et ce jeu est pas facile à gagner. Hein.
Alors, j'ai des retours totalement différents. Moi, je le trouve pas évident à gagner. Il y a des gens qui s'en sortent très bien.
Ouais.
Donc, je pense que ça dépend totalement.
Ça dépend, ouais.
J'ai l'impression que ça dépend des joueurs. J'avais un peu les mêmes retours sur Ghost Stories, moi, à l'époque. Des gens qui avaient aucune difficulté avec ce jeu, puis des gens qui trouvaient ça beaucoup trop difficile. Donc c'est peut-être une approche du jeu en fonction des personnes. Mais oui, il y a un certain challenge intellectuel, en tout cas à chaque part.
Ouais. Donc The Loop, c'est sorti en 2020, certainement
2020.
Un des meilleurs jeux coop de ces dernières années, on peut dire. Hein?
Et nous, c'est ce qu'on dit souvent en boutique. Ouais.
Voilà.
Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux pour moi. Ça, c'est un jeu brillantissime comme peut l'être un Spirit Island ou ce genre de choses. Si on cherche quelque chose de stratégique avec beaucoup de profondeur, c'est vraiment top.
Très bien, merci beaucoup Jonathan et on se retrouve eh bien, jeudi pour Dans le Rétro.
À jeudi Mathieu, salut.
Salut.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Sous l'océan, tout s'aime bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan.
Après avoir découvert l'écosystème de la forêt, Matt Simpson nous plonge cette fois-ci dans la biodiversité marine avec Écosystème Océan, un jeu que nous propose en ce printemps Ori Games. Alors si vous êtes habitué à Écosystème Forêt, vous ne serez pas perdu car c'est la même mécanique que l'on retrouve. La mise en place est très rapide, on mélange les cartes et chaque joueur va en récupérer 10. Mais alors comment on joue? Vous choisissez l'une des 10 cartes de votre main que vous posez devant vous et vous passez le reste de vos cartes au joueur à votre gauche. Tout le monde pose sa carte et a récupéré donc les cartes de son voisin. La carte que vous avez choisie et qui est posée, c'est la première carte de votre tableau qui sera composée au total en fin de partie de 20 cartes représentées sur une grille de 5 par 4. Et on recommence, je choisis une carte, je la place à côté d'une carte déjà posée dans mon tableau de façon orthogonale. Attention, les diagonales ne comptent pas. Alors on va faire ça 10 fois, on place ses cartes, mais attention, on les place pas n'importe comment parce que chaque carte a des objectifs, on va y revenir. Je vous ai parlé de 20 cartes, pour l'instant on en a joué que 10. Et bien alors après on va avoir posé 10, et bien 10 autres cartes sont distribuées et l'on va répéter le même processus, mais cette fois-ci on va drafter à droite jusqu'à ce que chaque joueur ait bien 20 cartes devant lui dans sa grille de 5 par 4. 5 fois 4 égale 20. Alors il existe 11 types de cartes, elles ont toutes des objectifs pour gagner un maximum de points. Elles sont divisées en 3 catégories, les producteurs comme les coraux, les krills, le plancton. Pour ce dernier, vous marquez 12 points si vous êtes le joueur à en avoir le plus. Il y a aussi les proies avec les mérous, les poissons clowns et les crabes. Et bien pour eux, pour les crabes, vous gagnez 2 points pour chaque carte plancton sur la même ligne. Il y a pas mal d'interactions entre les cartes. C'est le cas aussi pour les prédateurs, les requins, les baleines et les murènes qui, elles, chassent les proies. Chaque murène adjacente à une proie rapporte 4 points par proie si celle-ci est adjacente à un courroie. Ah oui, on a un effet de chaîne alimentaire. Et puis, il y a aussi deux espèces indépendantes, les tortues de mer et les pieuvres. Les pieuvres, quand elles sont posées, vous permettent de déplacer une autre carte. On retrouve un petit peu l'effet du lapin. Elles vous font gagner 3 points. Alors, il est tentant de se concentrer sur une carte particulière qui marque beaucoup de points. Mais il faut faire attention aussi pour avoir un équilibre dans sa chaîne alimentaire. Car vous pouvez marquer des points. En plus, vous regardez entre les producteurs, proies et prédateurs, celui qui vous rapporte le moins de points et vous ajoutez à nouveau ce total. Celui qui a le plus de points remporte la partie. N'oubliez pas qu'avant de faire le décompte, si vous avez une baleine, vous devez retourner une carte qui lui est adjacente et du coup, elle ne comptera pas. Bah oui, puisque une baleine à côté d'autre chose, forcément, ça ne se voit pas. Plus les cartes commencent à arriver, plus il va être compliqué de construire un écosystème cohérent. Alors qu'au début, on arrive à choisir rapidement leur emplacement. Et puis on fait du draft, alors faut aussi voir ce que vont vous donner vos adversaires et quelles cartes pourraient les intéresser pour ne pas leur laisser trop de points. Écosystème Océan est un jeu familial. On ouvre la boîte, on peut y jouer. Les règles s'apprennent en quelques secondes. À noter, qui dit écosystème dit jeu éco-responsable. Une boîte sans insert ni emballage plastique. Si vous aimez ce jeu comme moi, après la balade en forêt et la découverte des océans, vous pourrez même prochainement vous aventurer dans la savane. En attendant, moi, j'ai envie de me plonger sous l'océan.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le lundi, on fait un point sur toutes les news avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors la semaine dernière, c'était le lundi de Pâques, mais c'était aussi le 1er avril.
Exactement. Exactement.
Et les éditeurs ont fait quelques petites blagues.
Bah oui, j'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a toujours de plus en plus. Elles sont toujours de mieux en mieux faites pour la plupart. Donc bah là, j'en ai ressorti 4-5. Donc on a eu le droit à un visuel pour un prochain jeu de chez Z-Woman Games,
ouais,
qui s'appelle le Carcassomme.
D'accord.
Avec un car, voilà, un gros car sur la couverture, c'était assez marrant. On a Elon Musk qui va racheter Hasbro pour réaliser un rêve d'enfant, forcément.
D'accord.
Donc
ben
on
oui.
sait pas ce que ça va devenir. Chez Lucky Duck Games, on a un Destinies qui va arriver, qui était estampillé Buffy contre les vampires.
Ouais.
Je pense que ça a aucune dent contre Destinies, donc du coup, je pense qu'il y en a qui ont vraiment cru. Et
oui,
qui,
je pense
ça,
aussi.
Il y en a qui aimeraient bien que ça arrive.
Ben oui.
Chez Soif, bon bah là, chez Soif, c'était bien aussi parce que ils vont sortir une version Pocket qui va s'appeler Rikiki. Donc là, c'était assez bien avec une toute petite boîte minimaliste. Et enfin, le dernier, celui-là qui n'a été repris par personne et qui a été que j'ai cherché un peu loin,
ouais,
une société italienne qui s'appelle Postscriptum Games, qui propose des sleeves pour vos figurines et meeples.
Ah,
qui va s'appeler PlaySafe.
Ah, ouais.
Donc ça, c'était très beau parce que la photo ressemblait un peu à rien, avec une espèce de gros plastique autour d'une figurine. Bon ben voilà, comment pousser jusqu'au bout l'humour de nos ludistes.
Tout le monde a sorti son poisson d'avril, hein, forcément.
Ouais, c'était bien sympathique. Moi, j'aime bien cette période. Surtout que parfois, il y en a un dans l'eau qui n'en est pas un. Donc, on verra dans ces prochains mois s'il n'y a pas quelque chose qui va sortir de là, qui avait été annoncé le 1er avril.
Ouais, on verra ça, on verra ça.
Quelque chose qui... Ouais.
Maintenant, tu voulais nous parler d'une future sortie.
Oui, chez Repoprod, cet été, Fairy Ring qui va sortir. On va créer un cercle de fées, un village de champignons qui va grandir. On va guider nos fées de place en place pour rassembler du mana. On va avoir deux saisons pour faire ça, pour développer les abris avant que l'hiver arrive. Et donc, c'est un jeu créé par Laurence Grenier et Fabien Tanguy, qui sera illustré par notre cher Maud Chalmel. Ça va être un jeu qui s'avère... Enfin, qui est annoncé tactique, interactif et original, dans un monde féerique, donc, pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties d'environ 40 minutes. Ça arrive cet été chez Repoprod.
Et donc ça, c'est une sortie quand même qui avait fait du bruit, hein, du côté de Cannes, auprès surtout des médias et des influenceurs qui avaient vu le jeu. Hein.
Exactement.
Autre chose, Ludo.
Encore un truc qui fait du bruit, c'est Star Wars Unlimited.
Ah bah oui.
Donc, le Ombre de la Galaxie, c'est le nom du nouveau set qui fera plus de 250 cartes et qui va sortir lui aussi cet été. C'est annoncé pour mi-juillet. Donc là, l'accent sera mis sur le conflit entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. Et donc, ça se placera dans la bordure extérieure. Donc là, on va jouer les chasseurs de primes, qui vont jouer un rôle important dans ce cycle. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle mécanique basée sur les primes qui ont été ajoutées. En réalité, il y a trois nouvelles mécaniques qui ont été annoncées, donc les primes, il y en a une autre qui s'appelle la capture, on va pouvoir capturer des unités, on va les capturer de façon à créer des retraits temporaires. Il y a une troisième mécanique qui, elle, n'a pas encore été annoncée, qui va venir plus tard. Il y aura donc un kit de démarrage pour deux joueurs avec deux decks préconstruits, le premier ce sera Moff Gideon et le deuxième le Mandalorien.
Très bien. Allez, on a encore une petite place.
Allez,
pour une news.
Une petite dernière, après DC Marvel, dans le fou lancement, nous avons Simone qui va donc nous sortir DC Heroes United, donc la même chose, on reprend les mêmes et on change d'environnement.
Ouais.
Donc, jeu avec des petites figurines toutes chibi, coopératif, vraiment très familial. Donc Simone va remettre donc sa cape et son collant pour nous embarquer dans les rues sombres de Gotham City.
Très bien, merci beaucoup Ludo et on se retrouve la semaine prochaine.
Bonne semaine à vous.
Salut.
Salut.